Alors, désolé, ce n'est pas un documentaire animalier que je vais vous proposer. J'aurais bien aimé à cette heure-là, ça aurait été un peu plus facile, un peu plus léger. Je vais essayer de synthétiser, de problématiser à partir de ce qu'on voit au Comed, et puis vous compléterez évidemment avec votre expérience les uns et les autres sur accès aux soins, accès aux droits, qui paye les soins. Pour être très direct, on a trois types de problèmes. Moi, je propose de les présenter comme ça. Je vais insister, c'est pas tellement dans ce qu'on a l'habitude de faire au Comed. Je vais insister, on a un gros souci sur le financement du service public de la santé. Ça sera ma partie 1. La partie 2, c'est quelque chose de plus classique, c'est comment avoir ses droits. Alors, est-ce que ça marche, l'AME, les soins urgents, le machin, la carte vitale, etc. C'est toute la partie qu'on pourrait dire accès au droit. C'est pas seulement entrer dans le droit, c'est tout le problème du maintien et du fait que quand on est débouté avec sans papier, ancien demandeur d'asile, etc., comment on fait pour garder sa couverture? En lien, on parlera bien sûr, on reviendra sur la question des passes. Je vais pas traiter le point 3. Voilà. Le point 3, c'est qu'il suffit pas d'avoir des droits. Même si ça va être l'essentiel de mon propos, parce qu'une fois qu'on a des droits ouverts, c'est pas fini la bagarre. Il y a toute la question de l'interprétariat, qui est un sujet central que je vais pas aborder, mais en fait qui est au cœur de tous nos problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins. Il y a la question des prestations qui sont pas prises en charge financièrement par la Sécu, etc. La suppression de la carte vitale pour les demandeurs d'asile, bah, c'est une énormité. C'est-à-dire qu'on a des droits ouverts, mais on n'a plus de carte vitale, donc. Vous imaginez ce que ça génère en termes de transfert sur le système hospitalier, les passes, etc. Et puis évidemment, moi je ne peux pas faire une intervention comme ça sans avoir en tête la grève aux urgences, la catastrophe qu'il y a sur les conditions de travail d'un certain nombre de soignants, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Sur la spécificité des migrants, bah, on retrouve ce qu'on a discuté ce matin sur la spécificité ou pas, sur la singularité ou pas, sur le fait qu'il y a des choses qui sont vraiment spécifiques, je mettrai l'accent là-dessus, puis des choses qui sont faites partager avec l'ensemble des usagers du système de santé. Sur les populations dont on parle, moi, juste vous redire que sur la complémentaire CMU en France, c'est massif. C'est 7,5% de la population française qui vit en France, qui est sous les plafonds de complémentaire CMU à 720 euros par mois et par personne. Avec des disparités énormes selon les départements. La métropole, c'est 7,5%. La Guyane, c'est 38% de la population qui est à la CMU complémentaire. La CMU complémentaire, qui est donc une prestation d'aide sociale spéciale pour personnes démunies, et donc qui est un indice de la précarité. On n'a pas les chiffres sur les étrangers, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement sur la nationalité, mais on sait que ça augmente tous les ans. L'aide avec des taux de non-recours importants, aux alentours de 30%, l'aide à la complémentaire santé, juste pour dire qu'elle disparaît, c'est une bonne nouvelle au 1er novembre, et elle est remplacée par la CMU-C complémentaire, tant mieux pour tout le monde. Et puis l'AME, on va beaucoup parler d'AME, on se redit que ça pèse rien l'AME en termes d'effectifs, puisqu'on a. Alors ça pèse rien, c'est les gens qu'on voit dans nos consultations, donc pour nous c'est extrêmement important. Mais on a passé la barre des 300 000 personnes il y a un an et demi. On n'a pas les chiffres les plus récents. Voilà, pour se faire une petite idée des enjeux, une caisse primaire, quand elle. Ou la CNAM, quand elle vous parle des assurés, la CNAM sur le régime général, elle gère 56 millions de personnes. Et 300 000 bénéficiaires de l'AME pour se faire une idée de la surreprésentation, des surproblèmes posés par le double dispositif. J'y reviendrai. Alors, moi, je voudrais insister sur. Il n'y a pas que les droits. On constate des problèmes majeurs qui sont liés directement au fonctionnement de services publics en santé. En clair, la centralité d'avoir des droits ou pas. C'est une tautologie de dire, bah oui, les gens, s'ils n'ont pas de sécu, il va y avoir un problème. En fait, ça prend des proportions tout à fait inédites qu'on voit à travers, par exemple, les permanences téléphoniques ou les consultations. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de droit, il n'y aura pas de soins, et dans des univers qu'on ne connaissait pas avant. Je vous donne quelques exemples, vous les compléterez avec ce que vous voyez de vos pratiques. 2014, Marseille, hôpital de la Conception. Pas de protection maladie, pas de caution, ben, il n'y aura pas d'IVG. Ah bon, pourquoi ? Ah ben non, c'est une conjointe française sous visa, donc qui vient sous visa d'immigration. Pas de sécu encore ouvert, c'est très compliqué. Pas d'IVG. Ah bon, mais voilà, on n'avait jamais vu ça avant. Tellement ce n'était pas un problème, on a tous en tête qu'il y a des AMO spécial IVG, mais qu'il y a les soins urgents, les machins, etc. Pas d'argent, pas d'IVG. La PMI dans les Hauts-de-Seine, il y a un an. Alors c'est très simple, la PMI, conseil départemental, service public, santé publique, voilà. S'il n'y a pas de sécu, il n'y aura pas de PMI. Ah bon ? Oui, vous enverrez les femmes et les enfants, vous l'avez à l'écran, qui n'ont pas de droit ouvert ou qui sont en cours d'ouverture, ben on ne va plus les prendre à la PMI, vous allez me les envoyer à la PASS. Problème de financement. Question sur la permanence téléphonique du Comed. J'ai un patient qui sort d'une hospitalisation sous contrainte, il a été enfermé par le préfet à l'hôpital psychiatrique, il reçoit la facture, vous pouvez nous dire qui va payer ? Ah bon, je croyais que c'était le service public hospitalier qui s'occupait de prendre en charge ces gens. Pas de carte vitale, problème. Même question avec le SMUR, c'est-à-dire que maintenant c'est le SAMU qui vous amène à l'hôpital. On se demande à quel moment on va nous dire que s'il n'y a pas de carte vitale, il n'y a plus de SMUR. Sur le contexte d'inhospitalité, je partage avec vous une nouvelle récente d'un hôpital que je ne nommerai pas par décence, dont les initiales commencent par K et B, dans un département du sud de Paris. Dialogue avec une assistante sociale sur un co-suivi d'une patiente. L'accouchement de la personne, oui, ça sera pris en charge par les soins urgents. Mais par contre, les 5000 euros d'hospitalisation de jour, parce qu'il a fallu faire des injections de fer avant l'accouchement pour les problèmes d'anémie, eh bien ça, non. L'assistante sociale a décidé que c'était à la patiente de payer, pour des raisons qu'on peut deviner, d'inhospitalité. C'est une patiente qui est récemment arrivée en France, mais ça donne des trucs totalement absurdes, où c'est perdant-perdant, puisqu'ils vont se retrouver avec une patiente camerounaise super précaire, sans argent, qui ne pourra pas payer les 5000 euros, et puis l'hôpital qui devrait faire un dossier soins urgents et vitaux et qui ne va pas le faire et qui va perdre de l'argent. Donc on a vraiment un contexte de renforcement de l'exclusion des gens qui n'ont pas de droit ouvert. On le sait tous, mais ça se renforce. Ça touche aujourd'hui des gens qui ont des droits ouvrables. Et je n'aurai pas le temps de développer, mais sur les Européens, ça devient kafkaïen, c'est un problème numéro un sur lequel on est alerté. Bonne chance pour ouvrir des droits si vous êtes allemand ou roumain. Alors surtout si vous êtes sur un terrain rome avec un hébergement précaire. Très clairement, il faut mieux pas être européen pour ouvrir des droits aujourd'hui. Et du coup, ça nous oblige, nous, dans nos réflexions, je ne sais pas si vous les partagez pour les praticiens, mais on se met à réfléchir en disant, attends, il y a des gens qui ont des droits ouvrables, mais pas ouverts, et puis il y a des gens qui n'ont pas de droits du tout, et du coup, on se prend un petit peu à réfléchir sur quelle stratégie on va devoir développer, notamment les gens sous visa, etc., etc. L'accès à l'hôpital, du coup, je résumerai en trois problèmes. Un, la conditionnalité de la délivrance des soins à paiement d'abord et paiement assuré. Arnaud Weiss, ce matin, a évoqué le problème des situations où du refus de soins à l'hôpital pour le cancer. Ça génère un travail complètement nouveau pour le Comed. Parce qu'évidemment, quand on nous dit que la chimiothérapie pour la femme enceinte va pas pouvoir commencer tout de suite parce qu'il faut soit payer 8000 euros, soit attendre les 3 mois pour avoir l'AME, évidemment, on a un énorme doute sur le motif de ce retard aux soins, est-ce qu'il est fondé médicalement, avec un nouveau et énorme travail pour les collègues médecins du Comed qui sont sollicités par le téléphone pour se dire, bon, alors attends, comment on va pouvoir faire l'évaluation médicale et intervenir auprès de l'établissement pour lever cet affreux malentendu que non, il ne faut pas attendre 2 mois de plus ou les 3 mois du délai AME, mais vraiment assurer une entrée dans le soin sans attendre. Méconnaissance des soins urgents et vitaux, extrêmement confuse. Pour certains, c'est la PASS, pour certains, c'est la MIG de l'hôpital. Pour d'autres, c'est à demander par l'hôpital, non par le patient, etc. Donc il va falloir qu'on continue le travail de sensibilisation, de formation sur comment marchent les soins urgents et vitaux, avec une procédure d'instruction totalement absurde, puisque avant d'avoir le dispositif soins urgents et vitaux, il faut demander l'AME auquel on n'a pas droit. Oui, il faut absolument dans le dossier qu'il y ait une demande d'AME, alors que les soins urgents sont faits pour les gens qui n'ont pas 3 mois d'ancienneté de présence en France et donc qui ne peuvent pas avoir l'AME. Donc d'énormes problèmes de fonctionnement avec les hôpitaux. Et la conséquence, c'est une énorme crispation sur les passes. La collègue de tout à l'heure en témoignait, on est tous confrontés à ça. Les étrangers sous visa, qui sont refusés très fréquemment des passes au motif qu'ils sont précisément sous visa, la question de l'hospitalisation et l'énorme ambiguïté sur est-ce que la passe c'est un lieu de soins, c'est la polyclinique de l'hôpital, c'est la consultation ouverte 2 jours par semaine ou plus ou moins, etc. Ou est-ce que dans le fond la passe c'est le dispositif qui permet de financer le service public hospitalier, c'est-à-dire le soin et l'accueil de gens qui n'ont pas de droits encore ouverts ou des droits qui vont être ouverts plus tard ou qui sont en rupture, etc. Un des problèmes qu'on découvre, c'est la fausse gratuité. C'est-à-dire qu'on croyait qu'on allait à la passe et en fait, on ressort après, 2 mois après, avec une facture. On est énormément sollicité là-dessus. Et ce qui fait qu'on développe au Comed, alors peut-être que certains travailleurs sociaux dans la salle s'y sont mis aussi, de l'expertise sur la question de qui va payer la facture. Est-ce qu'on peut récupérer des droits sécu d'il y a 6 mois, d'il y a 8 mois? Est-ce qu'on peut faire vivre une demande d'AME parce qu'une AS a fait une demande d'AME qui est perdue dans les nimbres depuis 6 mois, mais peut-être on va pouvoir la faire vivre? Et puis vous signalez qu'on travaille de façon complètement nouvelle au Comed depuis quelques années, avec les services financiers des hôpitaux et pas seulement avec les sociaux. Parce que les mécanismes de facturation et de récupération de droits sont en fait hyper compliqués et que en travaillant avec les services financiers des hôpitaux, on arrive à tirer ensemble dans le même sens pour récupérer les droits d'il y a 6 mois, pour les mettre en paiement et puis surtout pour arrêter les poursuites avec les huissiers, la facture, etc. On travaille là-dessus, notamment à Marseille, à Cayenne, à Kourou, etc. Ça, c'est le résumé de... Il y a un gros souci sur le financement de l'hôpital public par lui-même et des services publics de santé, au-delà de la question de l'ouverture des droits. Alors, sur l'ouverture de droits, ça, c'est le sujet que, j'imagine, vous connaissez comme nous très bien sur avoir une AME, une Sécu, une complémentaire CMU, etc. Pour les étrangers, en séjour précaire, il y a encore d'énormes problèmes. J'allais même dire que malgré la réforme Puma, ils augmentent. On peut les classer en 4. Je ne vais pas tous les développer, mais c'est pour problématiser un peu et pour gagner du temps avec vous. 1, toute la question du double système. Si j'ai des papiers, je vais à la Sécu. Si je n'ai pas de papiers, je vais à l'AME. Vous essaierez de me régler le problème des mineurs isolés, dont on en a parlé tout à l'heure. Vous essaierez de me dire en droit de quelle couverture ils relèvent. Je vous dis ça parce que s'ils sont mineurs, ils devraient être considérés comme en séjour régulier. S'ils sont considérés comme en séjour régulier, ils devraient être à l'assurance maladie. Alors pourquoi la circulaire ministérielle du 8 septembre 2011 nous dit de les mettre à l'AME, ça c'est un mystère. Ah oui, mais s'ils sont pris par l'aide sociale à l'enfance, ils vont à l'assurance maladie. Vous n'avez pas compris, c'est normal, c'est un peu les incohérences de notre système. Autour du double système complémentaire, enfin du double système assurance maladie AME, on a, à mon avis, énormément de problèmes qui sont directement liés à ça. Sur le manque de transparence réglementaire des caisses, c'est hallucinant. Ça fait 10 ans qu'on demande à la CNAM d'avoir accès à ces circulaires réglementaires et ce n'est pas possible. Alors une petite victoire parce que il y avait un grand colloque la semaine dernière sur le renoncement aux soins organisés par la CNAM. Et un certain nombre d'excités activistes sont montés sur scène pour dire qu'il y en avait marre de faire des colloques sur le renoncement aux soins. si on ne pouvait pas accéder aux lettres au réseau de la CNAM, qui sont les circulaires internes de l'administration. C'est hallucinant, elles sont cachées, hein. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quelques excités qui ont été caricaturés pour dire on veut les lettres au réseau, c'est-à-dire les circulaires internes de la CNAM, et M. Revel, le directeur général, a cédé. Et on va enfin pouvoir diffuser et faire progresser ce sujet qui est de comprendre quelque chose au circulaire interne de l'administration. Je vais insister juste là-dessus sur tout ce qui est organisation interne des caisses. Vous avez essayé le 3646, je suppose, pour suivre une demande qui est perdue dans les nimbes. Il y a vraiment un souci. Le COMED, on colle des recours contentieux aux caisses de sécurité sociale, mais en fait, la Sécu, on l'aime et on la défend. Mais il y a quand même un gros, gros problème. Baisse des moyens, je la fais très rapide. Déshumanisation, plus d'interlocuteurs, recours à l'Internet, font un compte Amélie, il faut créer son compte, faut une adresse Internet. On retire les agents front office, comme on dit dans le jargon, on retire les agents des hôpitaux. Bonne chance pour ouvrir vos droits quand vous êtes étranger, précaire, non francophone, etc., etc. Deux points qu'on débat avec la sécurité sociale. Un, ils veulent absolument nous faire signer des conventions. Alors, il faut absolument signer des conventions avec Médecins du Monde, le CASO, le COMED, la PASS. J'imagine que la CEPAM de la Loire vous a approché pour signer des conventions. Peut-être certains d'entre vous ont des conventions. En fait, c'est un peu un contrat léonin, puisque c'est des conventions où ils nous disent « Écoutez, faites les dossiers AME, CMU complémentaires et tout le travail, et en échange, l'assurance maladie, on va vous traiter les dossiers dans des délais raisonnables. » Voilà, c'est ça. Et on ne vous les perdra pas. Donc là, il y a un gros sujet d'externalisation de tout le travail qui est transféré vers les sociaux, les associations, etc., en tous les cas, ça ne se fait plus au guichet de la sécurité sociale. Débrouillez-vous. Vous entendrez parler de FIDAS. Alors, FIDAS, c'est ce que nous vendent la CNAM et les CEPAM, qui consiste à dire, alors on n'a plus du tout de moyens pour accueillir les gens, mais on a une petite cellule experte que si vous avez un gros problème, vous pouvez lire le bas de la diapositive. On a pour objectif d'accompagner les assurés dans leur démarche de soins pour ceux qui y auraient renoncé. Voilà. Donc en fait, c'est un sous-groupe de quelques agents experts qui vont régler tous vos problèmes. Ça s'appelle PSIDAS et vous nous direz si ça marche. Nous, on ne l'utilise jamais. Et je termine avec le florilège. Le florilège de la réforme Puma, des problèmes, etc. On sort d'une longue séquence de 3 années de bagarre sur les étrangers et la réforme Puma. On a sauvé, je le dis, les associations regroupées à l'ODSE, etc. Deux sujets. Un, est-ce que quand j'ai un titre de séjour de 3 mois, je vais à l'AME ou à l'assurance maladie? Et si je vais à la Sécu, pendant combien de temps? Alors ça, on l'a sauvé. Maintenant, c'est 1 an incompressible pour tout le monde. Très bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on rentre dans le système, on n'est pas viré au bout de 3 mois parce que votre titre de séjour il est périmé. Et puis sur la frontière AME assurance maladie, on a un peu sauvé la mise sur les titres de séjour précaires et le fait qu'on n'envoie pas à l'AME des gens qui ont des titres de séjour de 3 mois, de 1 mois, une attestation de demande d'asile, etc. Par contre, c'est toujours la guerre. Alors vous me direz, vous, qu'est-ce que vous mettriez en 1 comme problème? Moi, je mettrais une nouveauté, c'est vous avez droit à rien, ni AME, ni complémentaire, ni sécu, etc., parce que c'est à la caisse de votre pays de provenance de vous prendre en charge. Et donc, il ne se passe rien pendant des mois, vraiment des mois, jusqu'à 8 ou 9 mois. Beaucoup les Européens, mais pas que, c'est tous les gens qui viennent de pays qui ont des conventions bilatérales. Et donc, on a ce nouveau problème. Et le deuxième que je mettrai en avant, c'est le ni AME, ni CMU complémentaire. Vous avez peut-être vécu ça. Alors, vous voyez, ça, c'est la caisse du Bas-Rhin, c'était en septembre dernier. les personnes non bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS. Aucune demande initiale de CMU-C ou d'ACS ne sera acceptée dès lors que la personne concernée se trouve en maintien des droits PUMA. À l'issue de l'année de maintien de droits PUMA, les personnes pourront faire une demande d'AME. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça demande de comme mobiliser comme concept, surtout le vendredi à 18h30, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il faut décrypter droit PUMA, il faut décrypter CMU-C et ACS, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, jusqu'à la fin de l'année, vous n'aurez droit ni à l'AME, ni à la complémentaire CM. Voilà, les exemples de complexité et de problèmes, j'en ai mis d'autres. Voilà. Quelques propositions avant de passer la parole aux collègues. Le point 2, c'est il faut simplifier le système. Il est grand temps de simplifier le système et de fusionner l'AME dans l'assurance maladie. On n'est pas les seuls à le dire, ce n'est pas qu'une posture. C'est stratégique pour les étrangers à statut précaire dont Arnaud Weil ce matin rappelait qu'ils étaient entre 1 million et 1,5 million. On ne parle pas d'un petit détail, on parle de populations relativement importantes et qui sont concentrées dans les métropoles et dans nos consultations. Et puis, sans doute, autour des PASS, le combat continue pour clarifier le rôle des PASS et pour redire que les PASS, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas de droit ouvrable. C'est aussi les gens qui viennent d'arriver en France, qui sont sous visa, etc. Merci.